Bonjour. Merci de m'avoir invité. C'est toujours une joie et en même temps, c'est un peu flippant. Je me dis, mince, je vais dans une autre église, c'est pas chez moi. Et puis en fait, je vois tellement de têtes connues que je me dis, non, ça change pas tant que ça. Au final, on est l'église de Clermont tous ensemble. Je pense depuis les eaux vives là-bas, on peut rejoindre Mission Gospel pas loin, et puis rue de Châteaudun pas loin non plus. Et je me disais, c'est toujours étonnant, on est plein de petites communautés, mais chacun reflète peut-être ce que Dieu veut amener. J'ai bien aimé ce sujet de prière, est-ce qu'on doit tout continuer? Est-ce qu'on doit continuer à faire tout ce qu'on faisait jusque-là? Peut-être, peut-être pas. Finalement, il y a différentes églises, différents temps, différentes saisons. Et je suis vraiment très heureux d'être là, et quand j'ai vécu ce temps de louange, merci. C'était vraiment un temps qui m'a fait du bien et qui est en plein accord avec ce que j'avais à cœur de partager ce matin. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Luc, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis référent au niveau de la pastorale de Clermont de Pulse, donc c'est pour ça que je connais pas mal des têtes des jeunes qui sont là et dans plein d'églises, donc ça c'est vraiment super. Vive Pulse, vive tous les jeunes qui s'engagent dans Pulse. C'est une œuvre pour l'unité et je me dis c'est vraiment ce que j'ai à cœur pour l'Église, pour cette ville, hein, qu'on soit une seule Église. Mais on ne peut pas tous être la main, le pied, la tête, l'œil ou l'oreille, donc chacun est différent. Mais on est l'Église de Jésus. Rien à voir avec ce que je voulais vous partager. Est-ce que vous avez déjà lu tous l'Évangile de Jean? Ouais. Vous avez remarqué que c'est complètement différent des autres évangiles. Et il y a un personnage qui apparaît dans l'évangile de Jean et qui est juste dans cet évangile-là. Dans les autres, on n'en trouve pas trace, on ne sait pas qui c'est. Il apparaît plusieurs fois, il n'a pas de nom, il n'a pas d'introduction, il est juste là. D'un seul coup, il est là. Et il est là, pas tout au long de l'évangile, il est là quand ça devient les temps un petit peu difficiles. On le retrouve au dernier repas, on le retrouve au pied de la croix, on le retrouve devant le tombeau vide, on le retrouve après la résurrection au bord du lac. Il est toujours désigné de la même façon, on n'a pas son nom, c'est une expression courte, étrange. Et il n'en parle pas une seule fois, ce n'est pas un accident, mais à chaque fois c'est le même nom. Je ne sais pas si vous le connaissez ce personnage-là, si vous a déjà intrigué, moi il m'a beaucoup intrigué et même perturbé. Pourquoi on l'appelle comme ça? Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Ce disciple qui m'a tellement agacé et rendu jaloux, c'est celui dont on dit le disciple que Jésus aimait. Ça m'énerve. Il y en a un au milieu de tous les autres, il est le disciple que Jésus aimait, mais serait-il le chouchou? On va lire quelques textes rapidement, juste pour remettre le contexte. Donc on est vraiment dans les temps de la fin du ministère de Jésus. Les disciples ont vécu avec Jésus pendant plusieurs années et on voit à partir de Jean 13 ce disciple qui apparaît au verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Donc c'est pendant le repas de la scène, la dernière scène qu'ils prennent ensemble, la dernière Pâque qu'ils prennent ensemble. Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » J'aimerais pas être celui-là. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Ça doit être lui, c'est toi. Oh, j'espère que c'est pas moi, au secours. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce ? » On ne dénoncera pas le coupable, on va s'arrêter là. Mais il y a ce disciple que Jésus aimait, c'est étonnant. On le retrouve au pied de la croix dans Jean 19, à partir du verset 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple a pris chez lui. On le voit un peu plus loin, Jean 20, on apprend quelque chose d'important là-dessus, sur lui à ce moment-là. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre, et l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Donc c'était peut-être le favori parce qu'il courait plus vite, il était plus efficace à faire des courses, je ne sais pas. Et on le retrouve dans deux autres passages, dans Jean 21, quand il y a une dernière pêche miraculeuse. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur, c'est le premier qui reconnaît que Jésus est Jésus. Peut-être quelque chose dans l'intimité qui était là. Et puis après la résurrection, on voit encore Pierre qui raconte n'importe quoi. À partir du verset 1, chapitre 21, verset 20, Pierre s'étant retourné et vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus, avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre ? En le voyant, Pierre dit à Jésus, ah oui, il faut rappeler que Jésus venait de dire à Pierre, tu vas sûrement mourir attaché, on fera de toi des choses que tu ne veux pas, etc. Et Pierre se pose la question, et celui-là, Seigneur, là, ce chouchou-là, qu'est-ce qui va lui arriver ? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Et là, tout le monde dit, mais lui, il ne mourra jamais. Il va vivre éternellement. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. En gros, mêle-toi de tes affaires. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Donc dans tous ces textes, on retrouve ce personnage étrange, un disciple que Jésus aimait et qui dérange profondément. En fait, certains théologiens considèrent que ce disciple-là, il n'existe pas, parce que ça ne serait pas juste qu'il y ait un disciple que Jésus aimait. Et donc, il y a eu toute une dispute en disant, mais non, c'est une image du disciple parfait, une image, un disciple théorique, idéal. Et en fait, à travers de lui, Dieu nous montre que Jésus aime tout le monde, que tous les disciples sont le disciple parfait en théorie, etc. Mais ce n'est pas ça que ça nous dit ce texte. On voit dans le dernier texte qu'on a lu, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. On est là dans l'évangile de Jean. Et les commentateurs se sont donc mis d'accord pour dire, mais tout simplement, ce disciple, c'est l'apôtre Jean. Qu'est-ce que ça nous dit ce texte ? Ça nous dit que Jean est le seul qui parle de ce disciple que Jésus aimait, parce qu'il raconte son histoire. C'est Jean qui raconte comment il a connu Jésus, comment il a vécu avec Jésus. Et il a cette relation personnelle avec Jésus à tel point que lui, il sait qu'il est le disciple que Jésus aimait. Je trouve ça très très fort. Il faut vivre une relation personnelle avec Jésus. Sinon, on connaît un Dieu d'amour, on l'a chanté, on sait que Dieu est amour. On connaît ce Dieu qui aime tellement le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut en réciter des beaux versets sur l'amour de Dieu. Mais moi, qu'est-ce que j'ai à dire sur moi et Dieu ? Dieu et moi. Et l'apôtre Jean, il a vécu peut-être ça plus que les autres. C'est son témoignage, c'est l'expérience de ce qu'il a vécu avec Jésus. Et au final, quand on écoute un témoignage, on est souvent béni. Ah, il a fait ça pour un tel, c'est glorieux. Mais quand on raconte notre témoignage, c'est encore plus fort. Celui qui est béni, c'est bien plus celui qui raconte son témoignage que celui qui écoute le témoignage. C'est ce que vit l'apôtre Jean ici, ce disciple que Jésus aimait. Et je voudrais peut-être nous donner une clé là-dedans. La façon dont Dieu t'aime dépend uniquement de la façon dont tu reçois son amour. Je répète. La façon dont Dieu t'aime dépend uniquement de la façon dont tu reçois son amour. Pourquoi ? Pourquoi j'ose dire ça ? Parce que Dieu aime, point, d'une façon absolue. Dieu est amour. Et ce qui fait la différence avec l'apôtre Jean par rapport aux autres évangiles, c'est que lui, il peut dire, ben moi, je sais, je suis le disciple que Jésus aimait. C'est hyper fort, parce qu'il a accepté de recevoir cet amour-là. Et souvent, c'est difficile. Et en tant que pasteur, je reçois des gens en entretien et c'est tellement difficile d'accepter que Dieu nous aime. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, on nous parle de Dieu qui est un Père, hein, Dieu le Père. Oh là là, combien de dégâts dans les églises, dans les vies, dans les familles, parce que le Père qu'on a connu, le Père qu'on a eu, on ne veut pas d'un Dieu comme ça. On ne peut pas recevoir l'amour d'un père quand on a eu un père violent, un père maltraitant, un père qui nous a abusés. C'est révoltant. Et nous, on vient, bon chrétien, bon pasteur, Dieu est ton père, il veut ton bien. Mon père, il me tapait dessus, il m'enfermait dans un placard. Mon père, il m'a livré à d'autres, mon père, il m'a abusé, mon père, il m'a maltraité, mon père, et les mères sont pareilles. Il y a des fois des chocs dans les familles, des traumatismes qui font qu'on ne peut pas recevoir cet amour de Dieu, et c'est normal. Je voudrais vous dire ce matin, peut-être une personne, peut-être zéro ici, et tant mieux, mais on ne peut pas recevoir l'amour de Dieu le Père tant qu'on n'a pas guéri de la vision du Père. Et c'est tout à fait normal, c'est un chemin, ça demande un processus de guérison, et on accompagne des personnes pour être rendu capable de dire « Ah, finalement, un père, ça peut être bon, et je peux recevoir cet amour de Dieu, le Père. » Mais c'est difficile, c'est pas naturel. Et dans ce monde tellement abîmé, on se retrouve bien souvent à dire « Mais je veux pas de l'amour d'un père. » Ouais, ben, peut-être que Dieu m'aime, mais je n'arrive pas. Et il y a un mur, il y a un blocage, et c'est normal. Il faut que Dieu vienne guérir les choses à l'intérieur. Ça prend des fois du temps. Ça demande aussi, recevoir l'amour de Dieu, de renoncer à nos fausses croyances. Combien on en a ? Combien on a hérité de toute cette mentalité de « je dois mériter l'amour ». Dieu nous aime quand on fait des bonnes choses. On se sent bien. Et quand on a fait des bonnes choses et qu'on se sent bien et qu'on vient à l'église, on se dit « ah, j'ai ressenti tout l'amour de Dieu aujourd'hui, je me sentais bien avec Dieu ». Finalement, on a un Dieu qui nous récompense et non pas un Dieu qui nous aime. Et quand on fait nos efforts pour être le mieux possible, alors, oh, on sait que là, Dieu, il peut nous aimer parce qu'on mérite son amour. Inversement, quand on ne se sent pas à la hauteur, quand on a vécu un peu n'importe quoi, quand on a l'impression qu'on est au fond du trou, ben finalement, Dieu ne nous aime pas. En tout cas, en ce moment, il nous aime moins. Et surtout, si je regarde les autres, il m'aime beaucoup moins que les autres. Et c'est des visions qui sont justifiables humainement, mais qui sont complètement fausses. Il faut cette vraie révélation de l'amour de Dieu qui permet de dire « Je suis celui que Jésus aime ». On a chanté dans le premier chant qu'il nous appelle par notre nom. Je vais vous dire, il a même prévu un nom nouveau. Et si tu ne connais pas ce nom nouveau qu'il t'adresse aujourd'hui, je vais te dire, c'est peut-être le disciple que Jésus aimait. Peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur veut réveiller ça dans certains, de dire « je t'aime ». Je posais la question pendant un entretien il y a quelque temps avec une personne qui venait d'Ukraine, donc avec une culture totalement différente, culture d'église totalement différente que chrétien orthodoxe. Et je lui ai posé la question « pourquoi Dieu t'aime ?» Ah ben Dieu m'aime parce que, je demandais un peu de réflexion quand même, parce que j'ai fait ça, et puis j'ai fait ça, et puis en Ukraine, je faisais ceci, cela. Quand elle a fini, j'ai redemandé, mais pourquoi Dieu t'aime ? Parce que j'allais à l'hôpital, et il y a des gens qui ont accepté le Seigneur juste avant de mourir. Je n'étais toujours pas content de la réponse. Pourquoi Dieu t'aime ? La personne a fini par me dire, mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'aime. Alors j'ai pu lui répondre, Dieu t'aime parce que tu es toi. C'est une vérité. Elle a fondu en larmes. Ça faisait peut-être 50 ans qu'elle connaissait le Seigneur. Elle ne savait toujours pas que Dieu l'aimait pour qui elle était. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu t'aime parce que tu es toi. Pas parce que tu fais ça, pas parce que tu es pasteur, pas parce que tu chantes super bien, pas parce que tu joues super bien de la batterie, du piano. C'est génial de mettre tous ces dons au service de Dieu. Mais Dieu t'aime parce que tu es toi. Juste parce que tu es. Il t'a voulu, il t'a fait et il t'aime. C'est terrible quand on est chrétien parce que on comprend un peu l'amour de Dieu quand on est pécheur. On se dit « Waouh, il est mort pour moi, il m'a pardonné. Ah, Dieu m'aime. » Et c'est vrai, alors qu'on était pécheur, Jésus nous aimait. Et maintenant qu'on est devenu chrétien, on pense qu'il ne nous aime plus parce que des fois, on pêche. Et on se sent rejeté parce qu'on a commis la moindre faute et on se sent plus digne de venir dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas ça la grâce de Dieu. Devenir le disciple que Jésus aimait. Trop beau pour être vrai, hein ? On n'oserait même pas. Si j'écrivais l'évangile selon saint Luc Kashkarian, j'oserais peut-être pas écrire. J'oserais peut-être pas écrire l'évangile tout court, mais j'oserais peut-être pas écrire « Je suis celui que Jésus aimait ». C'est comme quand Moïse écrit « Moïse était l'homme le plus humble du monde ». faut être sûr de son coup, hein ? Faut être sûr de son coup. Mais ce n'est pas une histoire de comparaison. Vous savez que Jean n'a jamais écrit « Le disciple que Jésus aimait plus que les autres ». Je ne suis pas le disciple que Jésus aime plus que les autres, je suis le disciple que Jésus aime, et ça me suffit. On ne se compare pas. La seule chose qui change entre lui et nous, je crois, c'est que lui, il le sait. Il en est convaincu. Dieu l'aime. Est-ce que tu le sais aussi ce matin ? Est-ce que tu es convaincu que Dieu t'aime ? Moi, je sais. Je sais parce que je l'ai tellement souvent déçu que je me suis souvent posé la question, mais est-ce que tu m'aimes encore ? Est-ce que tu peux encore m'aimer ? Et il y a eu des périodes où vraiment je me suis dit, non, là, je ne peux plus, c'est plus possible. Il y a eu des périodes où je me suis dit, je serais plus digne d'aller à l'église, mais je continuerai d'aimer Dieu. Il y a eu des périodes où je me suis dit, mais c'est plus possible que Dieu m'aime avec tout ce que j'ai fait. Et en me sentant tellement indigne, tellement mal devant Dieu, je me suis mis à genoux en pleurant devant Dieu dans une réunion. Et quelqu'un, je ne sais pas qui, je ne saurais jamais qui, pendant que j'avais les yeux fermés, quelqu'un a posé la main sur moi en disant « Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime ». Et moi, j'étais en train de dire « Dieu, tu ne peux plus m'aimer, c'est sûr, tu ne peux plus m'aimer ». Je le disais dans mon cœur, je ne le disais pas haute voix, la personne ne pouvait pas savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Mais je sais que malgré mes échecs, même si je me sens au fond du trou, même si mon état moral, physique, spirituel n'est pas toujours à la hauteur de ce que j'espère, je suis celui que Jésus aime. Qu'est-ce que ça change ? J'aimerais dire, ça me permet de venir devant lui sans faire semblant. Je sais qui je suis, je sais que je ne suis pas parfait, je sais que je n'ai pas besoin d'être parfait. Je sais qui est Dieu, et je sais à quel point il m'aime. Bien sûr, Jean est lucide et il ne dit pas « je suis le seul que Jésus aimait », comme il ne dit pas « je suis celui que Jésus aimait le plus ». Quand il nous parle de Marthe et sa sœur et de Lazare, il nous dit bien que Jésus les aimait aussi. Ce n'est pas une fausse doctrine qui nous dirait « Jésus aimait que Jean, il avait son chouchou, son disciple préféré », ce n'est pas ça. Il avait des amis et il a vécu vraiment une relation d'amour avec plusieurs. La Bible nous dit, et c'est l'apôtre Jean encore qui nous le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je vous rappelle qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. La plus grande preuve d'amour de Jésus pour moi, c'est qu'il a donné sa vie pour moi. Et parfois, on interprète des événements en pensant que Dieu aime plus les autres que nous-mêmes. Je ne sais pas si ça vous arrive. On voit des gens qui sont super bénis, on se dit, oh, Dieu, il doit trop les aimer. Et nous, on galère et on se dit, ben non, c'est sûr, Dieu, il m'aime moins, sinon il me bénirait aussi. Bon, des fois, on se dit juste, Dieu me punit. Ah là là, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça, Dieu me punit. On est les amis de Job envers nous-mêmes, là. Mais en tout cas, on se dit, eux, ils sont plus bénis parce que Dieu les aime plus. Si ça ne vous arrive pas, tant mieux. Moi, ça m'est arrivé. Mais on va regarder un peu ce qui s'est passé au tombeau de Lazare, si vous voulez bien. Lazare, ami de Jésus, est mort depuis plusieurs jours. Jésus prend son temps, il attend avant d'y aller. Et arrivé devant le tombeau, il pleure, il pleure. On va relire ce texte. Jean 11, toujours l'apôtre Jean qui nous parle de cet amour. À partir du verset 32, Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Vous avez peut-être bouleversé dans vos versions. « Où l'avez-vous enterré » demanda-t-il. « Viens, Seigneur !» lui répondirent-ils, « tu verras !» Jésus pleura. Alors tous dirent, « Voyez comme il l'aimait !» Il y a deux réactions possibles face aux pleurs de Jésus. Il y a ceux qui disent, « Ouf, ça, Jésus, il devait vraiment l'aimer fort !» Et les autres qui se moquent. « Eh, il a rendu la vue aux aveugles. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ?» Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre, » dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir. » Ça fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répond, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, « Père, tu as exaucé ma prière, je t'en remercie. » Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. » Je crois qu'il y a plusieurs lectures de ce texte. La première, c'est celle que font tous ceux qui entouraient Jésus à ce moment-là. Et les autres remarquent, pensent peut-être, que Jésus pleure parce qu'il est triste pour Lazare. Sous-entendu qu'il devait l'aimer plus que les autres, parce que c'était vraiment son ami. Et donc, comme Lazare est mort, ça rend triste Jésus, et Jésus pleure. Jean ne contredit pas ce qu'ont dit ces personnes-là. Mais il nous dit bien, il pensait, alors tous dire, voyez comme il l'aimait. Il ne dit pas, Jésus a pleuré parce qu'il aimait Lazare. Ça, c'est l'interprétation qu'en ont fait ceux qui étaient autour. Alors oui, l'amour de Jésus l'a sûrement poussé à pleurer pour Lazare, à pleurer sur Lazare. En même temps, il savait très bien qu'il allait le ressusciter. Lazare n'était pas non plus le chouchou, le favori ou le seul que Jésus aimait ou celui que Jésus aimait plus que les autres. Mais dans ce texte, il y a aussi une dimension prophétique, je le crois profondément. On nous dit que Jésus fut ému ou bouleversé. On ne nous dit pas qu'il était triste. Ce n'est pas le même mot. Le mot dans le texte nous dit que cette situation a emporté sa tranquillité d'esprit, ça a dérangé sa sérénité. Ça lui a enlevé le repos, ça l'a rendu anxieux ou déprimé. C'est étonnant comme mot pour Jésus. Ce n'est pas du tout une émotion de tristesse. Ce n'est pas comme quand Jésus voit quelqu'un dans la rue et est ému de compassion. Là, c'est encore autre chose. Il est troublé dans sa paix parce que je crois profondément qu'il se voit prophétiquement dans le tombeau. Il voit ce qu'il va avoir à vivre par amour, non pas seulement pour Lazare, mais pour l'humanité entière, pour chacun d'entre nous. Et ce Jésus est bouleversé. En même temps, il pleure aussi de tristesse, j'en suis convaincu. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus pour l'humanité qui donne sa vie. Ici, il est vraiment troublé parce qu'il vit cet avertissement. Voilà ce qu'il va t'arriver à toi aussi. Il sait que par amour, il va vivre lui-même cette situation. Il va donner sa vie. Il va rester plusieurs jours au tombeau. La pierre va être roulée. Il va attendre ce moment-là et il sait ce que ça implique. On a lu tout à l'heure que pendant le repas de la Pâque, où il annonce que Judas va le trahir, ah ça y est, j'ai spoilé, vous savez, c'est Judas le traître, oui. Il nous est dit, quand il raconte ça, qu'il est troublé en son esprit, et c'est le même mot, quand il annonce que quelqu'un va le trahir. On est bien loin de la tristesse seulement. Et ce n'est pas un hasard. C'est les mêmes sentiments, parce que quand il annonce qu'il va être trahi, comme quand il voit Lazare, il se passe la même chose dans son cœur, il sait ce qui l'attend. Jésus nous aime tellement chacun qu'il va donner sa vie, il va accepter de payer le prix. Il va accepter d'être comme Lazare. Et ce rappel prophétique le trouble, le perturbe, l'attriste, lui enlève sa paix. Pour ça qu'on le verra plus tard dans ce jardin de Gethsémané, en larmes, demandant à Dieu, mais s'il est possible que ma volonté ne s'accomplisse, que ta volonté ne s'accomplisse pas, Seigneur, j'aimerais bien que ce soit ma volonté à moi. Et peut-être souvent on prie comme ça. Mais Jésus nous a tellement aimés qu'il a dit, mais non, pas la mienne de volonté, Seigneur, la tienne. Jésus nous aime, c'est dans sa nature. Ce n'est pas une histoire de mérite. Ce n'est pas une histoire d'être à la hauteur. Ce n'est pas une histoire d'avoir accompli toutes les bonnes œuvres, d'avoir coché toutes les bonnes cases. Souvent quand des chrétiens viennent dans mon église, arrivant d'ailleurs, ils me disent « Qu'est-ce que je peux faire pour servir ?» Rien. Viens à l'église pour être à l'église. Viens auprès de Dieu pour être avec Dieu. Arrête de faire. Ça perturbe souvent. On a du mal à aimer sans faire. On a du mal à aimer juste en adorant, en prenant le temps de lire la parole ou de prier. On a du mal à ne pas se sentir utile pour Dieu, mais Dieu n'a pas vraiment besoin de nous. Il a surtout besoin qu'on se laisse remplir de son amour pour pouvoir répandre son amour autour de nous. Il a besoin qu'on se laisse toucher, il a besoin qu'on le connaisse, il a besoin qu'on vive un cœur à cœur avec lui. Il a besoin qu'on soit celui qu'il aime et que nous l'aimions en retour. Le monde, il n'aime pas, il ne sait pas aimer. Le diable, il ne sait pas aimer, il n'est que haine. Mais Dieu, lui, il est amour. Il n'y a pas d'amour en dehors de Dieu. Si on arrive à comprendre cet amour infini, alors, mes amis, nous n'aurons plus peur de venir dans la présence de Dieu. Vous avez déjà connu ça, ce moment où on se dit « Ouf, j'ose pas trop venir à l'église. Je me sens peut-être pas assez bien là pour venir. » Moi, je l'ai connu, hein. Et j'en ai même parlé à mon église. Des fois, quand j'étais plus jeune, des réunions, on me disait « Viens, il y aura un prophète. » « Non, s'il y a un prophète, il va me dire tout ce que j'ai fait. » Oh, la trouille. Je veux pas que Dieu m'expose. Je veux pas que Dieu dévoile la noirceur de mon cœur. Je veux pas que... Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu peut dévoiler, effectivement, on le voit dans la Bible, lorsqu'on cache. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lorsqu'on vient devant lui en disant « Seigneur, tu sais ce que je suis, tu sais que je ne vaux pas grand-chose, mais tu sais que je t'aime quand même, même si je n'y arrive pas tous les jours, même si je ne sais pas te le montrer assez, tu sais que je t'aime. » Alors Dieu vient vers nous et dit « Oui, je sais que tu m'aimes et je t'aime aussi. » Et le reste, on va le régler ensemble. Je crois qu'on sera heureux de venir dans sa présence tous les jours si on comprend à quel point il nous aime. Je crois aussi que tous les disciples auraient dû dire « Je suis le disciple que Jésus aimait ». Ça aurait dû être écrit par chacun. Je pense que Pierre aurait dû le dire encore plus que les autres. « Je suis le disciple que Jésus aimait ». Mais non, il n'y a que Jean qui avait cette conscience-là. Ça lui a permis de marquer l'histoire avec son évangile. On parle souvent des textes, des écrits de Jean comme des écrits de l'amour. Il nous parle de l'amour de Dieu parce qu'il a compris cette relation-là, à quel point c'était important. J'aimerais ce matin qu'on puisse tous repartir avec ce nom nouveau. Rentrer chez nous en disant « Je suis celui que Jésus aime ». Amen. Je ne sais pas si c'est facile pour tout le monde. « Je suis celui pour qui il a donné sa vie ». Ça, c'est peut-être plus facile parce qu'on se dit « Ouais, j'avais bien besoin qu'il donne sa vie pour moi. J'avais bien besoin, sans ça j'étais perdu. Mais non, je suis le disciple que Jésus aime. » On a beaucoup chanté l'amour de Dieu ce matin et vraiment j'étais reconnaissant de ce temps de louange. On a commencé avec un texte qui était dans 1 Jean 4. J'aimerais qu'on finisse aussi avec 1 Jean 4, verset 19. « Pour nous, nous l'aimons. » Amen. Ok, on l'aime, on est ok. Pourquoi on l'aime? Parce qu'il nous a aimé le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Sans son amour qui venait toucher nos cœurs, on ne pourrait pas lui renvoyer d'amour, on ne pourrait pas l'aimer. Mais il a mis en nous cet amour de Dieu. Et juste pouvoir lui répondre ce matin peut-être. Puisque je suis le disciple que tu aimes, sache Seigneur que je t'aime aussi. Je t'aime aussi. J'aimerais qu'on prenne un petit temps peut-être pour regarder en nous-mêmes. Si tu veux bien nous accompagner au piano. Juste un temps peut-être d'introspection, un temps où on pose la question à Dieu. Et peut-être Dieu a un nom nouveau pour chacun ce matin. Je crois clairement que pour tous, il nous dit « Tu es celui que j'aime ». Entends aussi « Tu es celui que je pardonne ». Tu es celui que je relève. Tu es celui pour qui j'ai donné ma vie. Tu es celui pour qui j'ai quitté le ciel, pour qui je suis venu sur terre, pour qui j'ai accepté de mourir à la croix. Tu es celui que j'aime. Tu es celui que je veux avoir près de moi chaque jour. Tu es celui à qui je veux parler. Tu es celui peut-être que je veux envoyer. Témoigner de mon amour, témoigner de qui je suis. Le Seigneur te dit, je t'aime pour qui tu es. Peu importe ce que tu fais, apprends déjà à être avec moi, dans ma présence. Peut-être quand tu en décideras ce qui sera écrit comme épitaphe sur nos tombes, on pourra dire, ici repose celui que Jésus aimait. Je pense qu'il n'y aurait pas de plus belle épitaphe. Ici repose celui que Jésus aimait. En attendant, on peut se reposer dans son amour pour arrêter de mériter, pour arrêter de croire qu'il faut être digne. Mais finalement, peut-être regarder en nous-mêmes en disant « Mais est-ce que Dieu m'aime ? Est-ce possible ? Est-ce que cette bonne nouvelle serait possible pour moi aussi ? Est-ce que Dieu m'aime ?» Et si on est sincère, cette réponse n'est pas toujours évidente. Oui, en théorie, je sais. Oui, il est écrit. Mais est-ce que je ressens que Dieu m'aime ? Est-ce que ça me motive à aller vers lui ? Si c'est le cas, merci Seigneur, remercions-le. Et on peut s'engager à vivre encore une relation plus forte avec lui. Mais peut-être on n'est pas tout à fait sûr, on doute. On n'a jamais ressenti cet amour de Dieu. Alors on peut prendre ce moment et lui dire, « Seigneur, touche mon cœur. Aide-moi à recevoir ton amour. Peut-être fais tomber les forteresses qui empêchent ton amour d'arriver jusqu'à moi. Toutes mes fausses croyances, mes faux raisonnements, tous ces murs de mon histoire, de mon passé, tout ce qui a construit des protections autour de moi. Seigneur, fais tomber toutes ces choses pour que je puisse recevoir ce que tu veux mettre en moi, cette petite graine d'amour, peut-être comme une petite graine de foi. Cherchons à vivre cette relation d'amour avec lui. Et commençons à peut-être prophétiser sur nos vies en disant « Je suis celui que Jésus aime. » Je suis celui que Jésus aime. Et qu'on commence à laisser Dieu nous élargir à l'intérieur pour recevoir cet amour qui vient de lui. Prenons un petit moment, peut-être en prière ou en silence. On peut se mettre à genoux devant Dieu aussi. Faites comme il vous semble bon. Mais laissez le Saint-Esprit, laissez le Seigneur, laissez Jésus, l'Esprit de Jésus venir à l'intérieur de vous et dire « C'est vrai, tu es celui que j'aime. C'est vrai. » Si tu es venu chargé, culpabilisé ce matin, Dieu te dit aussi, je suis celui qui te pardonne. Si tu te repens devant moi, je pardonne ta faute. Et non seulement je la pardonne, mais je l'oublie, je l'efface. Sois heureux d'être dans ma présence. Je ne suis pas un Dieu qui est venu pour te condamner, pour t'accuser. J'ai donné ma vie pour que le péché ne règne plus dans la tienne. Accepte mon pardon aussi, comme tu acceptes mon amour et ma grâce. Seigneur, je te remercie de graver ce nom nouveau sur chacun de nos cœurs. Si nos cœurs sont de pierre, tu les rends de chair à nouveau, Seigneur, par ton amour. Que tu graves dans chacune de nos vies, celui-ci est le disciple que j'aime. Celui-ci est mon disciple bien-aimé. Celui-ci est mon fils, ma fille, pour qui j'ai donné ma vie. Je crois vraiment que le Seigneur nous aime d'un amour inconditionnel. Et il n'y a que nous qui mettons nos propres conditions. Arrêtons de nous culpabiliser. Arrêtons de regarder à ce qu'on pourrait faire mieux. Arrêtons de regarder à toutes nos fautes, à tous nos échecs, à toutes nos erreurs, à tous nos péchés. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça veut dire que toi-même non plus, tu ne peux pas te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, rien, pas même la mort, ni les puissances, ni les hauteurs, ni rien. Jésus t'aime d'un amour absolu. Vraiment qu'on puisse tous repartir ce matin en disant, waouh, je suis celui que Jésus aime. Je suis celui que Jésus aime. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ce que tu as accompli pour chacun de nous. Prends de plus en plus de place dans nos vies, Seigneur, et que nous apprenions à être juste des réceptacles de ton amour, à t'aimer en retour et à parler de ton amour autour de nous. Comme tu nous as aimés, que nous puissions partager ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.